Bonjour, je m'appelle Bruce Edwards et bienvenue à l'écoute de ce podcast du Fonds monétaire international. Aujourd'hui, le dernier rapport du FMI sur les perspectives économiques régionales indique que la croissance en 2016 s'est ralentie dans environ deux tiers des pays de la région, la plus faible performance en plus de 20 ans.
Il ne faut pas oublier que la région d'Afrique subsaharienne reste une région d'immense potentiel. Un potentiel qui, à moyen terme, suggère que la croissance devrait être beaucoup plus forte. Maintenant, la région subit des difficultés temporaires et nous voyons trois pistes importantes pour permettre de faire redémarrer la croissance en Afrique subsaharienne.
Céline Allard dirige la division des études régionales au département Afrique du FMI et a supervisé la rédaction de ce nouveau rapport.
Donc, les perspectives de l'économie mondiale du mois d'avril étaient plus ou moins optimistes pour la première fois depuis très longtemps. Pourquoi l'image sombre de ce report sur l'économie africaine?
Donc, vous avez raison de souligner que la dynamique de croissance en Afrique subsaharienne a fortement ralenti. Après pratiquement deux décennies de croissance très forte, de taux de croissance de l'ordre de 5 à 6 %, on est maintenant dans une dynamique bien moins forte. Par exemple, en 2016, on estime que la croissance pour la région totale a ralenti jusqu'à un rythme de 1,4 %, qui est la performance la plus faible sur plus de deux décennies et bien en deçà de la croissance de la population d'Afrique subsaharienne. Effectivement, ce ralentissement est relativement large, hein, puisqu'on estime que à peu près deux tiers des pays de la région ont vu leur croissance ralentir en 2016. Ceci dit, je voudrais aussi souligner qu'il y a une forte hétérogénéité au sein de la région et qu'il y a encore un grand nombre de pays, notamment les pays les plus grands d'Afrique de l'Ouest et de l'Est, le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui continuent d'avoir une croissance relativement robuste de l'ordre de 5 à 7%. Alors maintenant, pourquoi ces perspectives de croissance en demi-teinte pour la région? Je crois que le premier élément, vous le soulignez, les perspectives de croissance mondiale sont un peu meilleures, mais en même temps, l'impact que cette amélioration des perspectives mondiales a sur la région reste encore relativement limité. La première raison, c'est que les prix des matières premières restent encore très bas. Même s'ils se sont relevés un petit peu depuis le début de 2016, ils restent bien en deçà des niveaux records qu'on avait vus au début de la décennie 2010. Donc, les pays exportateurs de matières premières restent encore très affectés par la baisse du prix des matières premières. Ceci dit, ce n'est pas la seule raison. Et je crois que ce qui est plus important de souligner, c'est que face à ce choc très important qu'une grande partie des pays de la région ont subi depuis la fin 2014 avec la baisse des prix des matières premières, ce que l'on voit, c'est que la réaction de politique économique reste encore relativement limitée et a été différée dans le temps, avec les conséquences que l'on voit sur la croissance de ces économies. En particulier, les pays les plus touchés n'ont pas encore pris la totalité des mesures requises pour faire face à la baisse des recettes de réserves et des recettes budgétaires que cela a engendré. Mais même pour les pays qui croient encore relativement fortement et qui restent peu tributaires des exportations de matières premières, des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Kenya, on voit des vulnérabilités qui commencent à émerger. En particulier, ces pays ont maintenant eu des déficits relativement élevés depuis plusieurs années, dans la mesure où ils essayaient de combler les déficits qui existent en termes d'infrastructures, d'éducation et de santé, ce qui est un bon élément. Mais en même temps, ce que l'on voit maintenant, c'est que dans ces pays, la dette s'inscrit à la hausse relativement fortement.
Et comment l'Afrique est-elle affectée par l'économie mondiale maintenant? Doivent-ils s'inquiéter des relations commerciales avec la Chine, par exemple, ou d'un dollar américain plus fort?
Alors, d'une certaine manière, en dépit de forts progrès qui ont été mis en place sur les deux dernières décennies, l'Afrique subsaharienne reste moins intégrée dans les échanges commerciaux mondiaux que les autres régions du monde. Donc, d'une certaine manière, ça peut les aider à être un petit peu protégés d'une réorientation qui pourrait se matérialiser au niveau global vers des politiques qui sont plus tournées au niveau domestique et moins en faveur de l'intégration mondiale. Donc ça peut être un premier élément pour les aider. Ceci dit, ça ne veut pas dire que les pays d'Afrique subsaharienne sont complètement protégés de ce qui peut se passer au niveau mondial. Et un élément très particulier, un développement récent qu'on a vu depuis 2005 à peu près, c'est qu'un certain nombre de pays qu'on appelle pays pré-émergents ont la possibilité maintenant d'accéder les marchés internationaux pour se financer. Alors, c'est une bonne chose parce que ça diversifie les sources de financement, mais en même temps, ça les rend plus sensibles au développement mondial. Et en particulier, si dans le contexte d'une normalisation de la politique monétaire aux États-Unis, le dollar venait à s'apprécier plus fortement qu'on l'anticipe, cela effectivement renchérirait le coût de ces financements pour ces pays pré-émergents, tout en aussi renchérissant le coût du service de la dette extérieure.
Évidemment, tous les exportateurs de pétrole ressentent beaucoup la chute des prix du pétrole. Mais il semble que les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sont particulièrement durement frappés. Quel est le plus grand risque pour les pays du CEMAC à l'heure actuelle?
Alors, vous avez raison de souligner que les pays exportateurs de pétrole ont été parmi les plus touchés par la baisse des prix des matières premières qui s'est enclenchée à la mi-2014. Les prix du pétrole ont été grosso modo divisés par deux depuis cette période. Mais ce qui les a particulièrement touchés par rapport, par exemple, aux pays exportateurs de métaux dans la région, c'est qu'ils sont particulièrement tributaires de la production pétrolière, tant pour les recettes d'exportation que pour les recettes budgétaires. Ce qui fait que, dans le cadre de la diminution très forte des prix du pétrole, on a vu émerger des déséquilibres extérieurs et budgétaires très importants dans ces pays. Le Nigeria, l'Angola et, comme vous le soulignez, la plupart des pays de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC. Alors, ceci dit, qu'est-ce qui différencie la CEMAC des autres pays dans ce contexte? Eh bien, ce que l'on a vu depuis le début de 2015, c'est que d'une certaine manière et dans une certaine mesure, des pays comme le Nigeria ou l'Angola ont laissé en partie leur monnaie se déprécier, ce qui a permis d'absorber une partie du choc. Maintenant, au sein de la CEMAC, qui est une union monétaire, le franc CFA est la monnaie commune et elle est rattachée à l'euro. Ce qui fait que l'instrument de taux de change n'est pas disponible pour ces pays. Ce qui veut aussi dire que c'est sur des mesures fortes budgétaires que doit s'appuyer la réaction des autorités des pays de la CEMAC pour faire face à ce choc très important qu'ils ont subi. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que les chefs d'État des pays de la CEMAC ont décidé à leur sommet en décembre 2016, où ils se sont réunis pour se mettre d'accord sur une stratégie collective de réponse au choc. Et depuis ce sommet, nos équipes travaillent de manière très intense avec les autorités de ces pays pour raffiner ces mesures, de sorte que l'on puisse mettre en place un programme de mesures que ces pays mettrait en place et qui nous permettrait de leur apporter un soutien financier.
Pourquoi les effets de la sécheresse ont été si sévères cette fois-ci? Est-ce qu'on peut simplement l'attribuer au changement climatique ou est-ce qu'il y a plutôt des facteurs économiques derrière cette crise? En fait, une crise qui risque de devenir une famine dans certains pays.
Vous avez raison que certains pays ont été affectés par la sécheresse. L'an dernier, on a vu un grand nombre de pays d'Afrique australe affectés par la sécheresse, un épisode qui est en train de se résoudre. Mais en même temps, cette année, ce que l'on voit apparaître, c'est à la suite de mouvements erratiques du climat attribués au phénomène de la Niña, ce que l'on voit, c'est un nouveau phénomène de sécheresse qui se développe dans certains pays d'Afrique de l'Est, l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, pour en citer quelques-uns. Et donc ça, ça a des effets effectivement négatifs sur l'agriculture et sur les revenus dont disposent les agriculteurs et les ménages. Donc ce sont effectivement des développements très importants et inquiétants, dans la mesure où près de la moitié des pays d'Afrique subsaharienne ont maintenant signalé que certaines parties de leur population faisaient face à un déficit alimentaire. Donc des conséquences très importantes. Maintenant, vous mentionnez la famine qui s'est développée dans certains pays. C'est effectivement le cas que la famine se développe au Yémen, en Somalie, et pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, au Soudan du Sud. On voit aussi que cette famine menace très fortement dans le nord-est du Nigeria. Alors, dans certains cas, effectivement, cette situation a commencé avec une situation de sécheresse, mais le plus souvent, ce que l'on voit, c'est qu'elle est combinée et exacerbée par des situations de conflit. C'est très clair dans le Soudan du Sud et dans le nord-est du Nigeria. Ce que l'on voit, c'est finalement les effets des attaques du groupe Boko Haram répétées par le passé, ce qui implique que dans ces régions-là, les habitants n'ont pas planté de récolte ou n'ont pas été sur les marchés depuis maintenant plusieurs années, avec des conséquences néfastes que l'on sait sur leur niveau de vie, mais aussi l'accès qu'ils ont à la nourriture. Alors, c'est une situation qui est très inquiétante pour nous et que nous discutons de manière très intense avec les autorités de ces pays, et nous, dans la mesure où nous essayons d'aider dans le contexte de notre mandat, ce qui implique des discussions sur les impacts économiques, les mesures qui peuvent être mises en place au niveau national, mais aussi, là où cela est légitime et où nous avons une requête, nous pouvons aussi apporter un soutien financier, comme nous l'avons fait par exemple au Malawi l'année dernière.
Et le rapport suggère aussi que la croissance du secteur privé pourrait contribuer grandement à la croissance économique de la région. Comment le fonds peut-il aider ces pays à attirer plus d'investisseurs?
Alors, je vous remercie d'avoir bien souligné ce point, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la région d'Afrique subsaharienne reste une région d'immense potentiel. Un potentiel qui, à moyen terme, suggère que la croissance devrait être beaucoup plus forte. Et un potentiel qu'il est important de réaliser pour répondre aux aspirations légitimes d'une population d'Afrique subsaharienne qui est jeune et croissante. Maintenant, comme on l'a souligné déjà, la région subit des difficultés temporaires et nous voyons trois pistes importantes pour permettre de faire redémarrer la croissance en Afrique subsaharienne. La première, c'est un effort pour assurer la stabilité macroéconomique dans la région. En particulier, les pays les plus touchés dans la région ont vu émerger des déséquilibres budgétaires et extérieurs qu'il est important de corriger rapidement, à la fois par des mesures budgétaires, en particulier pour améliorer la collecte des revenus, mais aussi, là où c'est possible, une plus grande flexibilité du taux de change. Et puis pour les pays qui continuent de croître très fort, je crois qu'il est important de remédier aux vulnérabilités qui ont émergé d'une position de force, dans la mesure où ces vulnérabilités doivent être remédiées avant qu'elles commencent à menacer la dynamique de croissance. Ce qui veut dire que pour ces pays, ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre en œuvre dès aujourd'hui une consolidation budgétaire graduelle. Donc ça, c'est le premier élément qui consiste à faire en sorte que le contexte macroéconomique soit suffisamment stable pour que les investisseurs aient confiance et suffisamment confiance pour faire leurs investissements. Ceci dit, ce ne sera pas suffisant et il faut coupler ces mesures avec un effort pour remettre en marche l'agenda de diversification économique de manière à ce que l'on identifie des nouvelles sources de croissance qui pourraient être portées par le secteur privé. Donc ça veut dire améliorer le climat des affaires et faire en sorte que ce soit plus facile pour les investisseurs sur le terrain d'investir. Enfin, le troisième élément que nous identifions dans ce contexte de conjoncture morose, c'est de faire en sorte que les filets de sécurité sociale soit suffisamment fort pour protéger les segments de la population les plus vulnérables. En Afrique subsaharienne, vous avez quelques programmes qui existent pour venir en aide à ces populations, mais en général, ils sont fragmentés et trop petits. Donc il y a un effort à faire aussi pour faire en sorte que les résultats très positifs en matière de réduction de la pauvreté qu'on a vu sur les deux dernières décennies soient préservés. Alors, comment est-ce que le Fonds monétaire international peut aider dans ce contexte ? Eh bien, je crois qu'il le fait déjà, dans la mesure où nous avons un dialogue continu avec les autorités pour discuter ces différentes stratégies, aider à identifier les mesures les plus importantes et les plus urgentes, et souvent aussi apporter une assistance technique pour aider à mettre en place les structures qui permettent de mettre ces mesures et de les rendre efficaces. Et en dernier lieu, nous apportons aussi, si besoin est et si on nous en fait la demande, un soutien financier. À l'heure actuelle, nous avons 20 programmes dans la région et nous sommes à la disposition des autorités si elles ont besoin d'un soutien supplémentaire.
C'était Céline Allard, chef de la division des études régionales au département Afrique du FMI, qui commentait le nouveau rapport sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Le papier intégral peut être consulté sur imf.org. Et vous pouvez écouter d'autres podcasts comme celui-ci sur soundcloud.com ou iTunes ou votre site préféré. Vous n'avez qu'à effectuer une recherche pour IMF Podcasts.